Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Impôts, environnement, citoyenneté, immigration. Dans une lettre en une trentaine de questions, Emmanuel Macron trace le fil de ce que doit être selon lui le grand débat national lancé demain en réponse aux Gilets jaunes. Emmanuel Macron interroge donc les Français pour ensuite prendre des décisions comme un air de déjà-vu, vous le comprendrez en début de journal.
Nous reviendrons ensuite sur le lancement officiel de la campagne du Rassemblement national pour les élections européennes. Là encore, c'est le chef de l'État qui est directement ciblé.
Une centaine d'étrangers enfermés dans des centres de rétention administrative sont en grève de la faim depuis 3 jours en région parisienne. Par désespoir et pour dénoncer de mauvais traitements, ils mettent leur vie en danger, vous l'entendrez.
Et puis dans cette édition aussi, la mise en garde de Matteo Salvini après l'extradition du militant d'extrême gauche Cesare Battisti vers l'Italie. Le ministre de l'Intérieur ne veut pas entendre de critiques sur cette arrestation. Cesare Battisti a quitté la Bolivie hier soir.
Et puis, quid de la révolution de jasmin en Tunisie 8 ans après? Le chômage stagne à 15%, l'inflation avoisine les 8%. Le pays est toujours en crise, nous dira un économiste en fin de journal. Ils prennent habituellement la plume pour défendre leur programme de candidat à la présidentielle. Lui est président de la République depuis 20 mois, très exactement aujourd'hui, et il s'emploie sur 5 pages à convaincre les Français de dialoguer, de débattre à ses côtés. Chose promise, chose due. Emmanuel Macron a écrit une lettre ouverte diffusée hier soir dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une lettre qui dessine les contours du grand débat national. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Du service politique de France Culture. Rosalie, Emmanuel Macron pose dans cette lettre, une trentaine de questions appelant à transformer les colères en solutions.
Et pour ça, pas de questions interdites, écrit d'emblée le président. Mais Emmanuel Macron trace tout de même des lignes rouges. Sur la fiscalité, par exemple, le chef de l'État nous encourage à trouver des idées pour la rendre plus juste et plus efficace. Il nous demande quels impôts il faut baisser en priorité, mais tout de suite, il claque la porte à l'éventuel retour de l'ISF. Même chose pour la transition écologique. Il faut la financer, on peut débattre de qui et comment, mais on est prévenu, la solidarité nationale est nécessaire. Même limite encore quant à l'immigration. Le président pose la question des quotas pour la réguler, mais ajoute qu'il n'est pas question de toucher au devoir de l'asile. En revanche, sur un thème, le débat paraît plus ouvert, celui de la réforme de nos institutions. Faut-il limiter le nombre de parlementaires, reconnaître le vote blanc, rendre le vote obligatoire, quelle est la bonne dose de proportionnel aux législatives, ou encore faut-il accroître le recours au référendum et qui doit en avoir l'initiative? Autant de pistes chères aux Gilets jaunes qui semblent sur la table du grand débat.
Interroger les Français, c'est un exercice, il faut le noter Rosalie, un exercice auquel s'était déjà prêté l'équipe d'Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale, d'où le scepticisme de l'opposition.
Et si c'est juste pour faire semblant comme pendant l'élection, ce n'est pas vraiment nécessaire, tacle d'ailleurs le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. On ne peut pas convoquer l'ensemble des Français à un grand débat en leur disant « vous aurez vos questions, ce sera mes réponses », résume le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Là où Alexis Corbière, chez les Insoumis, dénonce une opération de communicant, Sébastien Chenu du Rassemblement National condamne un baratin hypocrite. Et puis pour les Républicains, comme pour Debout la France, avec sa lettre, le président ne cherche qu'à gagner du temps. Bref, oui, l'opposition est sceptique sur la lettre et sur le débat. La question maintenant, c'est de savoir ce que vont en faire les Français, ce que nous allons en faire et dans quelle mesure le président l'entendra. Il promet de tirer de cette consultation toutes les conclusions et d'en rendre compte mi-avril.
Merci Rosalie Lafarge. Notons que le Premier ministre Édouard Philippe doit dévoiler aujourd'hui les modalités de ce grand débat national avant une semaine de visite présidentielle prévue dans différents départements auprès des élus locaux. Journée spéciale, par ailleurs, au fil des émissions de France Culture ce lundi, qui s'interrogeront sur ce grand débat national, de la fabrique de l'histoire au grain à moudre, en passant par la grande table et, évidemment, les matins de France Culture. Voilà pour les défis à court terme d'Emmanuel Macron. À plus long terme, il est aussi bousculé en vue des élections européennes de mai prochain. Hier, Marine Le Pen a lancé la campagne du Rassemblement National, s'opposant en principale opposante d'Emmanuel Macron. Elle s'appuie sur l'idée d'une bataille entre deux blocs, les pro-Europe et les patriotes. À la Maison de la Mutualité à Paris, le parti d'extrême droite a voulu hier nationaliser le débat sur l'Europe et présenter les 12 premiers noms de sa liste pour l'élection européenne. En tête, Jordan Bardella, 23 ans. Il s'est montré assez confiant sur les chances de ses troupes, comme l'a constaté Steven Goyer.
Lui-même n'a pas utilisé ces mots, Macron démission, mais debout face à ses sympathisants, Jordan Bardella, à grand renfort de mouvements de bras, chauffe la salle pour faire gonfler le message. La tête de liste n'hésite pas à imputer les tensions actuelles au président de la République, mais aussi à l'Union européenne, Angela Merkel ou Jean-Claude Juncker. Un groupe d'européistes, d'après le qualificatif utilisé par Marine Le Pen, face à qui Jordan Bardella compte bien opposer un groupe dit de patriotes à l'échelle européenne.
Depuis un an, j'ai rencontré nos alliés ou futurs alliés de toute l'Europe, italiens, espagnols, autrichiens, belges, et j'ai vu partout cette même flamme, cette même espérance, ce même sentiment que nous sommes en train de construire quelque chose ensemble, que le moment est venu, que le réveil des peuples a sonné.
Référence faite en France au mouvement des Gilets jaunes qui porte dans les sondages au moins la liste Rassemblement National, première au classement des intentions de vote. Situation sur laquelle compte bien capitaliser Jordan Bardella.
Nous avons 4 mois pour transformer cette révolte populaire en une révolution du bon sens. Nous avons 4 mois pour convaincre. Parce que le soir du dimanche 26 mai, je veux que Castaner ait les larmes aux yeux en voyant arriver les résultats des bureaux de vote au ministère de l'Intérieur.
Une première vraie expérience à cette échelle pour le jeune homme de 23 ans qui sera cependant secondé par certains élus plus expérimentés sur sa liste, comme le député européen Nicolas Bay ou encore l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani.
Thierry Mariani, récent transfuge, présenté pour l'occasion hier aux militants RN. Les grèves de la faim prennent de l'ampleur dans les centres de rétention administrative. Vendredi, une centaine d'étrangers ont emboîté le pas à quelques migrants. À Ménil-Amelot, en Seine-et-Marne, et à Vincennes, dans le Val-de-Marne, ils ont cessé de se nourrir. Tous dénoncent des violences et des conditions de vie déplorables. Ils sont soutenus par une association de solidarité aux migrants, la CIMAD. Son secrétaire général Jean-Claude Mas n'est malheureusement pas surpris de cette action désespérée.
Ça fait plusieurs mois qu'on dénonce et qu'on interpelle sur la situation explosive en centre de rétention, qui est le fait principalement d'une politique acharnée d'enfermement par ce gouvernement et qui produit en rétention la maltraitance, du désarroi, un sentiment d'injustice qui font que beaucoup de personnes en centre de rétention passent à l'acte. On a en cette dernière année eu 2 suicides en rétention, des automutilations et maintenant des grèves de la faim pour dénoncer la situation que les personnes vivent. On est dans une politique d'enfermement qui en plus conduit à un certain nombre de violations de droits puisque nous, dans les centres de rétention où la CIMAD intervient, on fait le constat que plus de 40% des personnes qui sont enfermées en centre de rétention sont finalement libérées au bout de quelques jours par un juge qui a sanctionner des pratiques illégales ou abusives des préfectures. Donc, violation de droit plus enfermement tous azimuts, sans discernement, font qu'on se retrouve dans une, face à une situation explosive et on comprend que les personnes qui sont principalement concernées soient à bout et passent à l'acte de plusieurs façons, dont malheureusement la grève de la faim.
Jean-Claude Mas de la CIMAD, qu'il répondait à Agnès Lombardet. Selon lui, la loi Asile et Immigration en vigueur depuis le début du mois et qui fait passer la durée de rétention de 45 à 90 jours. Selon lui, cette loi aggrave, dit-il, la situation des migrants.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Cesare Battisti est attendu à Rome à la mi-journée.
L'ancien activiste armé des années de plomb en Italie est extradé vers son pays d'origine. Cesare Battisti y avait été condamné il y a 25 ans par contumace à la perpétuité pour le meurtre de 4 personnes. Un temps protégé par la France, puis par le Brésil, il a été retrouvé et arrêté donc ce week-end en Bolivie. Il est actuellement dans un avion affrété par Rome, de quoi satisfaire le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, qui se réjouit et qui prévient déjà d'éventuelles critiques.
Mon pensiero non può andare ai parenti, ai familiari.
Mes pensées vont aux parents, aux proches des victimes de cet assassin. Ce n'est pas un prisonnier politique. C'est un infâme, un lâche, un délinquant qui mérite de finir sa vie en prison en Italie au plus vite. J'espère qu'il n'y a pas un politique, un intellectuel, un chanteur qui souhaiterait créer la polémique au-delà des partis sur ce qui est un succès pour l'Italie en général. Le changement de politique au niveau international avec Bolsonaro, Trump a aidé. Bien sûr, c'est rageant de savoir que pendant des décennies, ce monsieur a été défendu, cajolé, protégé, qu'il a profité de la vie à la plage, à Paris, en écrivant, en dansant, en mangeant. des choses qu'il a niées aux personnes qu'il a tuées. Mais pensons au présent et suivons minute après minute l'évolution des événements, d'autant que ce personnage nous a habitués à travers les ans à des choses de toutes sortes. Donc on attend la fin de l'affaire. En attendant, je remercie tous ceux qui ont permis sa capture.
Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, traduit grâce à Marie Duhamel, notre correspondante à Rome. Les menaces n'y ont rien changé. La Turquie compte bel et bien poursuivre la lutte contre la milice kurde en Syrie après le retrait américain. Le porte-parole de la présidence turque a répondu à Donald Trump sur le même réseau social que lui, sur Twitter. Ces menaces, écrit-il, ne font aucune différence. Un peu plus tôt, le président américain avait promis de dévaster économiquement la Turquie si elle s'attaque aux Kurdes. Les Kurdes alliés, rappelons-le, de Washington dans la lutte contre le groupe État islamique. Et pour lutter contre les djihadistes, la France, elle, est toujours mobilisée. Comme un écho d'ailleurs au retrait annoncé des Américains, Jean-Yves Le Drian doit atterrir dans les minutes qui viennent à Bagdad, en Irak. Le ministre des Affaires étrangères veut afficher son soutien aux forces françaises. Il l'a redit à notre envoyé spécial à ses côtés dans l'avion, Franck Madvon.
Les États-Unis s'en vont, mais vous pouvez compter sur la France. Voilà ce que vient dire en Irak Jean-Yves Le Drian. L'annonce par Donald Trump du retrait des quelques 2000 soldats américains présents en Syrie a sidéré Paris.
Nous avons appris le retrait des États-Unis de Syrie de manière très brutale. Nous avons fait savoir aux États-Unis que nous ne comprenions pas cette rapidité parce que Daesh n'est toujours pas vaincu en Syrie.
Et même en Irak, des cellules djihadistes se reforment, des attentats surviennent à nouveau. Les Américains promettent un retrait progressif, mais ils ont commencé ces derniers jours à évacuer leurs troupes de Syrie. Pour le moment, assure Jean-Yves Le Drian, la France, deuxième contributeur de la coalition contre Daesh, n'abandonne pas le combat, ni en Syrie, ni en Irak.
La France est présente en Irak, la coalition aussi. La coalition se réunira à Washington au mois de février pour décider de la suite de son action. Donc pour l'instant, nous sommes là et nous restons.
Mais que peut faire la France sans l'appui des États-Unis ? Son objectif est d'assurer un retrait américain coordonné avec les autres acteurs de la région, ne pas lâcher notamment les alliés kurdes syriens. L'Irak, où opèrent déjà des soldats américains et français, est plus que jamais un pivot de la guerre contre les djihadistes.
Franck Madvon, envoyé spécial de France Culture aux côtés du ministre Jean-Yves Le Drian à Bagdad. Donc ce matin, il doit rester 2 jours en Irak. 2 milliards d'euros pour les forces aériennes françaises. La ministre des Armées, Florence Parly, l'indique ce matin dans les colonnes de Sud-Ouest. Elle l'officialisera aujourd'hui par ailleurs en Gironde à Mérignac. Ce nouveau programme de Rafale sera pris en charge par les 1400 employés de Dassault à Mérignac. En bref encore, le maire de Gdańsk en Pologne a été grièvement blessé hier soir au couteau sur une scène en public. Il participait à un téléthon local. Il y a 8 ans jour pour jour, le dictateur tunisien Ben Ali fuyait son pays. Poussé par un peu plus de 2 semaines de manifestations, c'était ce que l'on a appelé la révolution de Jasmin, à l'origine du printemps arabe. Tout commençait en décembre 2010 avec la mort d'un jeune vendeur de fruits dans la ville de Sidi Bouzid au centre du pays. Crise sociale devenue politique. 8 ans après, force est de constater que peu de choses ont vraiment changé. Le pouvoir d'achat et l'emploi sont au plus bas et notamment encore dans le centre du pays, Thibaut Cavalier.
Fin décembre, en direct sur Facebook, un jeune journaliste qualifiait de mensonge les promesses faites aux Tunisiens depuis 8 ans, avant de s'immoler par le feu. S'en suivirent des heurts entre jeunes et forces de l'ordre dans sa ville, Kasserine. Une immolation et une manifestation pour l'emploi de plus, dans un pays où rien de concret n'a été fait depuis 2011, estime Elias Jouini, économiste franco-tunisien.
Il y a des projets qui ont été présentés, avec notamment un désenclavement de l'intérieur du pays, avec le développement d'une activité qui permettrait de positionner la Tunisie comme une plateforme logistique entre l'Europe et l'Afrique. Mais on en est toujours aux dossiers qui sont dans les cartons.
La faute à de longs blocages politiques, mais aussi à des consensus entre partis opposés que des projets trop ambitieux auraient fragilisés. Aujourd'hui, le chômage atteint les 15%, l'inflation avoisine les 8% et le dinar chute d'année en année. Une crise qui se ressent d'autant plus dans le centre tunisien où se trouvent des activités essentielles au pays. Elias Jouini.
Dans l'industrie du phosphate, dans l'extraction du phosphate, la production est toujours très en dessous de ce qu'elle pourrait être. Les productions manufacturières continuent à baisser d'une année à l'autre. autres, le déficit budgétaire, le déficit commercial, s'aggrave d'année en année.
La situation aura permis l'émergence de djihadistes venus principalement de ces villes isolées. Après les attentats de 2015 à Tunis et Sousse, les touristes semblent revenir sur la côte. Mais le développement du centre tunisien des hérités paraît être la seule solution à long terme.
Alors en Tunisie, y a-t-il eu une révolution pour rien il y a 8 ans? Question que pose également Thibaut Cavaillès sur notre site franceculture.fr, un article à retrouver en une du site. C'est le retour des éclaircies sur le nord-ouest de la France ce lundi. Les pluies vont tomber sur le sud-ouest pour gagner à la mi-journée en diagonale le nord-est. Et seul le sud-est finalement sera du matin au soir largement ensoleillé. Ce matin, il fait 4 degrés à Besançon, comptez 6 degrés à Lille, 8 en région parisienne et sur la Bretagne, 10 degrés à Bordeaux, 14 la maximale déjà ce matin à Perpignan.